Bienvenue dans À vue d'esprit avec Pierre-Yves Moret. Mieux communiquer pour mieux vivre, c'est la formule qui pilote la série de cette semaine. Serge Carrel a rencontré différentes personnalités du monde de la psychologie, de l'accompagnement ou de la foi. Et ils développent chacun d'eux à partir de leur point de vue ce qu'une meilleure communication pourrait amener à tout un chacun. Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors ce matin, pour cette troisième édition, c'est à la rencontre d'un aumônier que vous nous invitez.
Oui, Thierry Lenoir est pasteur adventiste. Il travaille depuis 8 ans comme aumônier à la clinique La Linière à Gland. Et vous allez l'entendre, il est très marqué par les talents de communicateur de Jésus de Nazareth. Il en a même fait un livre, Paroles de chair, les techniques de Jésus maître en communication.
Les techniques de Jésus, alors quelle est sa thèse à Thierry Lenoir?
Alors pour lui, la fréquentation de Jésus peut ouvrir des pistes pour nous aujourd'hui en matière de communication. Nous avons besoin de modèles ou de maîtres en matière de communication. Et Thierry Lenoir dit discerne en Jésus un communicateur hors pair qui peut nous apporter beaucoup aujourd'hui. Mais avant d'entendre cette aumônie à ce sujet, je lui ai fait part de mon scepticisme par rapport au fait de considérer Jésus de Nazareth comme un maître à l'heure de l'iPod, de l'iPhone ou du Kindle. Thierry Lenoir.
Je crois qu'il y a une grande confusion. Une confusion qui me semble évidente entre ce qui sont les moyens de communiquer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, bien, les moyens sont incomparables par rapport au passé, et puis la capacité de communiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ressent un manque cruel. C'est un comble d'ailleurs que les moyens de communiquer deviennent même des obstacles à la communication. De plus en plus de gens ont un immense désir de communiquer pour mieux vivre et ils décident même, pour mieux communiquer, de tourner le doigt à ces multimédias que vous évoquez il y a un instant.
Bon, donc, en même temps, aujourd'hui, on est complètement immergé là-dedans et j'entends se détourner de ces moyens-là, ça paraît complètement irréaliste.
Alors c'est incontournable, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la communication, ce n'est pas que cela. Hein, c'est un moyen, mais que la communication va bien au-delà. Et dans ce sens-là, Jésus reste toujours un modèle de la relation, hein, même s'il n'avait pas accès à tous ces moyens.
Alors, vous vous êtes plongé dans le donné biblique pour essayer, dans le Nouveau Testament bien entendu, pour essayer de percevoir en quoi Jésus était un maître en matière de communication. Et dans votre petit livre « Paroles de chair », vous dites que Jésus a des attitudes gagnantes en matière de communication. Alors concrètement, Thierry Lenoir, qu'est-ce que vous entendez par là?
Bon, l'Évangile le montre, Jésus savait captiver les foules, hein, à un point tel que les foules étaient capables de rester des journées entières sans manger sous un soleil brûlant. Il avait une autorité qui était totalement reconnue.
Alors pourquoi... Oui, au point de fâcher un peu la concurrence, comme on dit.
Alors, c'est évident que certains lui en voulaient et étaient peut-être même jaloux de cette capacité qu'il avait de rassembler les foules et de les tenir en éveil, et surtout de les mettre en marche. Hein. Donc, bien sûr, Jésus avait un message qui était valorisant, dont le peuple avait absolument besoin. On peut avoir la meilleure des enveloppes s'il n'y a pas un contenu, ça on va nulle part. Donc, c'était un merveilleux communicateur, mais qui avait un message qui était stimulant. Alors, les attitudes gagnantes. Ben, il en avait tout plein.
Vous en auriez quelques-unes à mentionner?
Je crois que la première, et tous les communicateurs sont d'accord de dire que la meilleure approche, attitude nécessaire en communication, c'est l'enthousiasme. Ben, Jésus était un enthousiaste. Il était communicatif dans son enthousiasme. Il était très dans un esprit festif. C'est pas pour rien que l'Évangile nous rappelle sans arrêt que c'était lors des repas qu'il rencontrait les gens. Il avait une réputation même d'être un mangeur et un buveur. Non pas qu'il était un ripailleur, mais c'était un bon vivant qui aimait la fête, qui aimait communiquer, rencontrer les êtres dans l'intimité.
En même temps, aujourd'hui, quand on parle de la personne de Jésus, souvent c'est pas du tout ce volet-là qui transparaît au premier chef.
Mais non, on voit souvent un Jésus austère, sérieux, à l'image des chrétiens, de beaucoup de chrétiens. Bien entendu, Jésus était un bon vivant qui a choqué donc les gens de l'époque. On lui disait, mais enfin, cette manière de vivre et de passer même au-delà des principes religieux austères où il fallait tout un rituel, se laver les mains. Jésus disait, mais quand l'époux est là, on fait la fête, alors faisons la fête.
Donc Jésus, là, en matière de communication, avait une attitude intérieure gagnante, il était enthousiaste. Vous en auriez d'autres de ces attitudes à mentionner?
Bien sûr. Ben, ça va de pair avec cela. Il était enthousiaste, il était aussi profondément optimiste. C'est pas pour rien que s'adressant aux Galiléens qui étaient des êtres opprimés, écrasés par les Romains et par l'élite religieuse de Judée, Jésus commence un immense discours où il va les tenir en haleine en commençant par « Heureux êtes-vous ».
Donc ça, c'est le sermon sur la montagne, comme on dit de manière plus classique.
Le sermon sur la montagne, où on dit le début des béatitudes. Il commence par leur parler de bonheur. À des gens à qui l'on a toujours dit qu'ils étaient nés sous la mauvaise étoile et qu'ils n'avaient pas droit au bonheur. Eh bien ça, c'est un bon communicateur qui a un message enthousiaste, optimiste et qui leur apporte justement la possibilité de vivre un bonheur.
Donc là, deuxième attitude gagnante, comme vous le dites, cette dynamique d'optimisme. Est-ce qu'il y en aurait d'autres de ces attitudes intérieures gagnantes ?
Alors, il y en a tout plein. Une qui découle de cet optimisme, c'est cette vision résolument positive. Notamment, il racontera plus d'une histoire, dont celle-là, la parabole de la mauvaise herbe, de l'ivraie du bon grain, où il s'insurge de ceux qui constamment voient la mauvaise herbe alors qu'il y a tout le bon à côté, et qu'il nous invite à ne pas utiliser du désherbant, mais à protéger le meilleur, avoir toujours ce regard qui cherche à voir chez les êtres et chez soi-même le meilleur, et de ne pas combattre contre, mais de combattre pour. Hein. Ça, c'est une autre attitude. Et puis, il avait des idées claires, des idées concises.
Il y avait des formules, hein, vous le soulignez dans votre petit livre, qu'il avait un peu des slogans publicitaires, on pourrait dire, de ces formules choc qui, quelque part, captivaient l'attention des gens.
Une formule qui permettait de passer par-dessus un long discours, quand il dira, bien, vous voulez me suivre, avec la franchise qui le caractérisait à ses disciples, il disait, les oiseaux ont des nids, moi, je n'ai ni de lieu, ni aucun lieu pour reposer la tête, je suis sans domicile fixe. Le résumé de la loi, tu aimeras Dieu ton prochain comme toi-même. Qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Hein, toutes ces formules qui aujourd'hui sont rentrées dans
l'usage courant. Dans l'usage courant. Ouais. Mais Thierry Lenoir, lorsqu'on vous entend parler justement de ces attitudes gagnantes du Christ, de la personne de Jésus communicateur, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Vous trouvez qu'il y a une application directe à tout cela?
Alors bien sûr, et je peux juste vous lire une petite parole d'un grand spécialiste d'aujourd'hui de la communication qui est Régis Debray, qui dit « Vous qui voulez transmettre, racontez d'abord des histoires, surtout ne donnez pas de leçons, faites court avec un T, soyez positif, affirmatif, optimiste, trouvez de belles images plutôt que des vilains mots, pas de théorèmes, des paraboles. » J'ai l'impression qu'il a lu l'Évangile.
Très certainement, on connaît Régis Debray. Oui. Non, mais alors concrètement, disons, avoir cette attitude aujourd'hui, ces attitudes intérieures, on a parlé donc de cet optimisme, de cet enthousiasme, de cette capacité à avoir des formules. Vous avez l'impression vous-même, qui êtes aumônier dans le cadre de la clinique de la Lignière, vous avez l'impression que ça facilite la communication?
Mais c'est la base même de la communication. Combien de fois j'ai des patients qui viennent vers moi qui me disent, écoutez, vous a pas encore entendu parler, mais on a vu votre enthousiasme, on a vu votre sourire, ils ont vu que j'ai de l'humour, parce que Jésus avait de l'humour aussi, ça c'est encore une autre attitude aussi extraordinaire. Les gens ont envie de communiquer parce que justement, ben, les barrages à la communication sont tombés par ces valeurs gagnantes.
Thierry Lenoir, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, lorsqu'on lit les évangiles et qu'on s'attache à cette perspective de Jésus maître en matière de communication, on est frappé par le fait que Jésus souhaitait aussi communiquer au-delà des mots, qu'il avait différents autres médias qu'il utilisait. Quels étaient ces autres médias ?
On sait très bien que la parole est qu'une toute petite partie de la communication. Par contre, il communiquait avec tout son être, tout son corps, il communiquait par le regard, il communiquait par le toucher aussi. C'est quelqu'un qui aimait rencontrer l'être au-delà des paroles. Constamment, l'Évangile nous dit qu'avant de parler, il regardait la personne. Dans ses tout premiers disciples qu'il a appelés, notamment Nathanaël, le texte nous dit tout simplement, la première parole qu'il lui a dit, c'est « Tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Et ça, ça a touché profondément Nathanaël qui a voulu en savoir plus. Quand un jeune homme vient voir Jésus, il lui pose des questions, Jésus, le regardant, nous dit le texte, se mit à l'aimer et il lui dit. Ou promenant son regard sur la foule, Jésus dit. On sait très bien qu'en matière de communication, énormément passe par le regard. La preuve, c'est qu'on dit ton regard trahit tes paroles. J'ai lu dernièrement une statistique qui disait que la faculté qu'on a de croiser, de soutenir le regard de quelqu'un dans un dialogue, c'est environ 1 seconde 27.
Vous faites plus vous-même. J'imagine que vous êtes capable de soutenir le regard beaucoup plus longuement.
Non, mais comme disait Jésus aussi, il disait, c'est ton œil qui est la lampe de ton corps. C'est-à-dire que ton œil, c'est cette fenêtre sur l'intériorité, c'est ce lien avec l'autre. Donc il avait une qualité de regard qui était étonnante, et l'évangile le souligne à plusieurs reprises. Et puis sa faculté de toucher. Chaque fois que Jésus guérissait, soulageait, aidait, accompagnait quelqu'un, le texte précise qu'il le touchait. On lui amenait même des enfants pour qu'il les touche, qu'il les prenne sur ses genoux dans un geste de tendresse.
Mais ça, concrètement, aujourd'hui, en matière de communication, ça a toute sa pertinence, à la fois le regard. On le comprend bien, le toucher, on est peut-être moins sensible à cette dynamique-là.
Alors, on est plus méfiant, parce que bien sûr, il faut faire attention à tous les abus, et on en a bien sûr très peur de se toucher, puis en même temps, on souffre cruellement d'un manque immense de tendresse. Et maintenant que je suis dans la relation d'aide et dans l'accompagnement en milieu hospitalier, combien de fois j'ai même des patients qui me disent mais personne ne me prend dans mes bras, personne ne me touche. Tout récemment, il y a quelques heures encore, j'accompagnais quelqu'un jusque dans son dernier souffle. Tout ce qui me restait à faire, c'était de lui prendre la main. Elle me serrait cette main. On sentait qu'elle était avide. Il n'y avait plus que cela comme communication qui passait. C'était le toucher, le sens du toucher. On l'a perdu et pourtant, on en a tant besoin.
Donc concrètement, aujourd'hui, si l'on veut s'inspirer du Jésus communicateur, on a à votre sens à réhabiliter à la fois le regard, soutenir le regard, et une certaine forme de toucher. Mais comment parvenir à faire cela sans que cela génère de l'ambiguïté?
Alors, bien sûr, Jésus n'envahissait pas. Il ne s'agit pas d'envahir. Mais je vois, par exemple, chez Jésus, on dit d'ailleurs que quelqu'un est touchant. C'est une expression. Hein, ça veut dire que ça l'a touché. Mais au-delà même de symbolique, c'est vraiment le geste. Jésus, par exemple, quand il veut nous laisser le signe le plus merveilleux de son message, qui est le pain partagé, donné, hein. Et juste avant, il va laver les pieds des disciples, invitant eux-mêmes à se laver les pieds l'un l'autre. Hein. Au travers de ce geste, ça rend concret, ça nous permet d'appréhender d'une toute autre manière le message de la grâce qu'il voulait transmettre au travers de se toucher, tout simplement. Alors bien sûr, c'est parfois simplement une poignée de main, c'est une main sur l'épaule, sans envahir. Parfois, il suffit de voir quelqu'un, quand on lui dit comment ça va, il me répond ça va très bien, et puis on le regarde un petit peu plus profond dans les yeux, on met une main sur l'épaule, on dit comment ça va. C'est tout autre chose.
En matière de communication, d'après vous, Thierry Lenoir, dans votre petit livre « Paroles de chair », permettez véritablement au prochain, à l'autre, en dialogue, d'être et de grandir. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé à une telle perception? Quel texte, quelque part, du Nouveau Testament, vous percevez, vous mettez en avant pour affirmer cela?
Alors, il y en a tout plein, toutes ces rencontres d'ailleurs.
Vous avez systématiquement l'impression que lorsque Jésus regarde quelqu'un, lorsqu'il entre en dialogue avec quelqu'un, il le met un peu sur un piédestal?
Oui. Oui, il a cette faculté de valoriser les individus. D'ailleurs, c'est intéressant, après son fameux discours, sermon sur la montagne qu'on a évoqué tout à l'heure, où il s'adresse à des petites gens hein, méprisées, où il donne un discours tonique, où il leur rappelle qu'ils sont le sel de la terre, qu'ils sont la lumière du monde, ne donnez pas vos perles à des cochons, disait-il. À la fin de ce discours, il est dit que les foules étaient subjuguées parce qu'il parlait avec autorité, contrairement à la plupart des rabbins. Et c'est intéressant de savoir ce que signifie l'autorité. Il me semble que c'est Jacques Salomé d'ailleurs qui un jour disait « L'autorité, c'est être auteur de sa vie et reconnaître l'autre comme auteur de la sienne. » Ben ça, c'était la faculté de Jésus. Il était responsable de ce qu'il disait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait, mais il permettait à l'être qui était en face de lui de devenir l'auteur de sa vie. On a l'exemple, plein d'exemples. Zachée, par exemple, qui est en quête du regard de Jésus, Zachée. Qui se sentait petit dans la vie aussi. Eh bien, il grimpe dans son arbre en quête de regard. C'est Jésus qui le regarde. Jésus s'arrête et lui dit « Descends vite hein, !» Ça, c'est l'enthousiasme. On revient à ses valeurs. Hein. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et le texte précise avec une petite pointe d'humour « Et Zachée était debout devant lui. » À moins de se casser la figure, il était debout. Ce qui veut dire qu'il était debout, il était grandi. Et constamment dans les évangiles, quand on voit la femme adultère qui est jetée aux pieds de Jésus, Jésus la rejoint, il va écrire dans le sable de la terre dans un geste extrêmement symbolique pour les juifs. Et puis il la rejoint là où elle est pour la relever, la remettre debout. Où sont ceux qui t'accusent? Personne, dit-elle. Et il la remet en marche. Hein? On pourrait comme cela multiplier le nombre d'exemples où Jésus n'écrase pas, même pas dans la honte. Combien de fois, malheureusement, dans la religion, on a utilisé le moteur de la honte? Jésus, jamais. Quand on voit une femme samaritaine, qui est une femme prostituée vraisemblablement, eh bien quand elle a compris combien Jésus voulait la valoriser, la redresser, la remettre en marche, elle court à meuter tout le village qu'elle fuyait. Elle va ameuter tout le monde en disant « Venez voir Jésus, il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle n'avait même pas honte, libérée de tout cela. Donc Jésus relève et met en marche.
On l'a dit déjà à plusieurs reprises, Thierry Lenoir, vous êtes vous-même aujourd'hui aumônier. Tout cela, ça nourrit un peu votre quotidien, cette capacité en tant qu'aumônier d'avoir, lorsque vous rencontrez des gens, la possibilité de relever, de renvoyer, de remettre debout, comme vous le disiez tout à l'heure.
Je pense que c'est d'abord mon ministère premier en tant qu'aumônier, c'est de permettre à la personne de se retrouver, de revendiquer, de redécouvrir toute la dignité qui est la sienne. Vous le savez bien sûr que le drame de notre société aujourd'hui, c'est un problème d'estime. Chacun se sent dévalorisé, dévalué, et du coup se met dans la peur à agresser les autres. Donc il y a besoin d'être rassuré, de se recentrer, de retrouver toute sa dignité.
Donc vous retrouvez dans la personne de Jésus une sorte de moteur qui vous permet au quotidien de pratiquer cela.
Un point tel que très souvent quand j'accompagne une personne, la relation que l'on a, tout de suite je pense à une des relations que l'évangile nous donne de Jésus avec un personnage ou l'autre, auquel j'essaye de calquer mon attitude à celle qu'avait Jésus comme modèle dans la relation d'aide aussi, bien sûr.
Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, une telle attitude amène quelque chose dans cet accompagnement que vous proposez?
Bien sûr, je peux vous donner un exemple.
Volontiers.
On a un exemple assez intéressant d'un aveugle qui s'appelait Bartimée, qui veut dire le fils de l'impur. Donc, parce que voilà, non seulement il est aveugle, souffrant, mais en plus de ça, humilié. Et le texte nous dit qu'il était au bord du chemin. Comme au bord du chemin de sa vie. Puis voilà que Jésus passe par là. Et puis il interpelle Jésus. Jésus, aie compassion de moi. Jésus s'arrête et a une attitude qui pour moi est exemplaire dans la relation d'aide. Il dit, dites-lui de venir jusqu'à moi. C'est intéressant parce que moi j'aurais fait autrement, j'aurais couru jusqu'à lui. Non, il a tellement le respect de la personne qu'il veut bien aider la personne, mais il veut la mettre en marche et il veut faire de la personne un partenaire de sa propre guérison. Dites-lui qu'il vienne jusqu'à moi. C'est pas évident pour un aveugle de braver le regard des autres. Il court jusqu'à Jésus. Et quand il est vers Jésus, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Ça aussi, c'est fondamental. Combien de fois on a envie de plaquer nos désirs de vie, nos désirs...
Nos réponses toutes concrètes.
Nos réponses. On vient comme celui qui a tout à donner. Jésus n'est pas celui qui donne. Jésus est celui qui demande qu'est-ce que tu veux, qui veut vérifier d'abord si c'est réellement la guérison que l'autre voulait. Et quand finalement l'autre précise « je veux guérir » et qu'il entre dans la guérison, Jésus lui dit « mais c'est ta foi qui t'a guéri ». A toujours cette valorisation de l'individu, de dire « c'est toi l'artisan de ta propre guérison, c'est parce que tu as été mis en marche ». Te laisse faire le pas qui va te permettre de retrouver confiance en la vie. Si on fait pour l'autre ce qu'il est capable de faire, on ne fait qu'augmenter son manque de confiance. Ça, c'est une attitude exemplaire dans la relation d'aide et dans la communication.
Thierry Lenoir, dans votre petit livre « Paroles de chair », vous dites que Jésus, comme communicateur, vous apparaît comme quelqu'un qui était à même, capable de demander, de refuser, donc de dire non, de donner et de recevoir. Donc, quelqu'un qui, quelque part, était à même véritablement d'être en interaction avec chacun, sous tous les registres possibles. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer cela ?
C'est vrai que le drame de la communication, c'est qu'on est bourré de demandes, on est bourré de besoins, d'attentes que l'on n'ose pas formuler. Mais par contre, on attend toujours que les autres
devinent,
les entendent, d'où souvent les problèmes dans les couples, dans la société, parce qu'on a des attentes qui ne sont pas formulées, que l'autre n'entend pas et qu'on aimerait bien qu'ils entendent.
Donc là, Jésus vous paraît intéressant parce que lui-même demande.
Alors, il est capable de demander, il a demandé, quand il était en Gethsémané, par exemple, lui, le maître, il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors venez, priez avec moi, j'ai besoin de votre présence, j'ai besoin de vos prières. Il a des besoins et il les formule. Et encore même sur la croix, c'était « j'ai soif ». Quand il est avec la Samaritaine, première chose qu'il lui dit, c'est « donne-moi à boire ». Il est là avec un besoin fondamental. C'est pas pour rien que Jésus disait « demandez et l'on vous donnera ». La première manière de voir une requête aboutir, c'est déjà de la formuler. Donc Jésus nous a donné les moyens et nous invite à oser demander.
Et en même temps, il est aussi capable de dire non. Donc il ne se fait pas manger ou dévorer totalement par des demandes qui viendraient au-devant de lui.
Il va dire une chose fondamentale, qui reste une pertinence brûlante. Il dira que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ce qu'on y rajoute, ça vient du diable. Eh bien, se donner cette faculté de dire oui, mais cette faculté aussi de refuser, et ce qui est très pertinent, de refuser sans même s'imposer un devoir de justification. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Le diabolos, c'est le diviseur. Combien de fois, d'abord, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on veut toujours être aimé. Alors on dit oui. Ou alors si on doit dire non, on va inventer des prétextes, voire même rentrer dans une voie très mensongère. Et ça complique tout parce que l'autre se rend très bien compte que ce ne sont que des prétextes. Donc la communication, elle est de toute façon brisée. Donc Jésus dit non. Donnez-vous le droit de dire non sans devoir justifier. Ça vient du diable, tout ce qu'on rajoute. Donc c'est merveilleusement libérateur. Et entre parenthèses, quelqu'un qui est capable de dire non, quand il dit oui, le oui est lumineux.
Donc là, on voit que du point de vue de la communication, ça facilite passablement les choses et ça rend les contacts beaucoup plus aisés, beaucoup plus transparents.
C'est une transparence, une démarche de sincérité qui aide l'autre aussi à être profondément vrai. Donc la communication devient limpide.
Bien sûr. Trop limpide parfois ?
Alors, bien. Je ne sais pas si on doit être trop limpide. C'est clair qu'on ne peut pas toujours être dans la vérité absolue. Il y a des moments où malheureusement il faut pouvoir se protéger aussi. Mais se protéger, c'est aussi savoir dire non.
Thierry Lenoir, dans Parole de chair, vous dites aussi que Jésus était, de manière assez surprenante, capable de gérer les conflits. Alors concrètement, à quoi est-ce que vous voyez cela dans le texte biblique ?
Alors Jésus n'a jamais occulté les conflits. La vision où tout devrait aller très bien quand on a la foi, quand on a une belle communauté, elle est complètement erronée. Il y avait des conflits. Il y avait des conflits parmi les disciples. Ils se disputaient parfois comme dans une cour d'école. Mais ce qui est important pour lui, c'est la manière de gérer les conflits. C'est d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que chez Jésus, ça a toujours été privilégié que l'on puisse rétablir une relation au-delà du conflit. Il disait, lorsque tu vas au temple pour apporter ton offrande, qui est l'acte religieux par excellence, et tu te rappelles, tu as un conflit, laisse ton offrande et va te réconcilier. Par contre, le conflit en soi n'est pas négatif.
Donc là, concrètement, par rapport à des gens qui, quelque part, auraient peur de cette dynamique de conflit, à votre sens, Jésus invite à aller au-devant du conflit et, quelque part, à avoir une certaine manière d'envisager le conflit.
Oui. Alors, Jésus avait des pratiques pour désamorcer le conflit qui sont assez intéressantes et qui sont vraiment d'une grande pertinence de communication.
Lesquelles ?
Alors, par exemple, il savait désamorcer la violence, par exemple, en provoquant un point d'accord. Combien de fois il était interpellé, notamment par des pharisiens qui cherchaient à le piéger, qui venaient avec une situation très concrète, polémique. Alors Jésus ne polémiquait jamais, parce que c'est inutile de rentrer dans le même langage. Donc Jésus quittait le lieu de la polémique et racontait une histoire, tout simplement une histoire. Une histoire qui les rejoignait. Par exemple, quand il parlait aux pharisiens, il parlait souvent d'histoires d'argent. Parce qu'il savait qu'à l'époque, les pharisiens étaient très sensibles à la question financière. Donc pour parler du pardon et de l'accueil d'une prostituée, Jésus va raconter une histoire de remise de dettes. C'est comme pour détourner...
On décentre un peu la perspective.
On décentre le conflit pour arriver à un point d'accord qui est une histoire. Et puis une histoire, ça s'accueille, ça ne se discute pas. C'est même plaisant. Et puis après, de cette petite allégorie qui est une fenêtre ouverte dans le conflit, Jésus redescend de nouveau vers le conflit, mais avec un petit passage par quelque chose de lumineux et de frais.
Aussi dans votre petit livre, Thierry Lenoir, que Jésus était une sorte d'artiste en matière de communication de ses idées. Alors, on l'a déjà entrevu un petit peu, Jésus était un conteur d'exceptions.
Alors, il parlait en trois dimensions. C'est vrai que...
Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ?
Mais il faisait intervenir, comme tous les conteurs d'ailleurs, c'est ça la magie du conte. Pourquoi ça touche tant ? C'est que justement, on parle et ça touche l'intellect, mais ça touche le goût, il y a le toucher, il y a l'émotion, c'est les métaphores, les allégories. Jésus parlait en trois dimensions. Par exemple, il prenait des images du genre « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Quiconque met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est pas propre pour le royaume. » Le royaume des cieux, disait-il. Alors, c'est une conception très, très abstraite. Alors, Jésus parlait comme un poète. Le royaume des cieux est semblable à un chercheur de perles, semblable à un homme qui sème de la semence dans son champ, ou à quelqu'un qui jette un filet pour rassembler des poissons de toute espèce. Donc, toutes des images qui font rêver. Il parlait par signes aussi.
Donc vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, du lavement des pieds, mais on pourrait en imaginer d'autres. La multiplication des pains. La
multiplication des pains, qui est une merveilleuse leçon d'une mathématique étrange. Plus quelque chose est divisé, plus il se multiplie. C'est vrai de la communication, d'ailleurs. Hein. Plus c'est vrai de l'amour, c'est vrai du bonheur. Plus on le partage, plus il y en a. Il y a un geste de Jésus que je trouve extraordinaire, que j'ai envie d'évoquer. Ce fameux geste où Jésus écrit dans le sable, à côté de la femme adultère. Je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce qu'il écrit comme cela dans le sable? Ben vous savez qu'il s'adresse à des maîtres de la loi. La loi, c'est cette parole divine écrite du doigt même de Dieu dans la pierre, et à un point tel que ces docteurs de la loi étaient devenus rigides, froids et durs comme la pierre. Et voilà que Jésus oppose une autre loi qui n'est plus écrite dans la pierre, mais dans la poussière de la terre. Pour un juif, la terre, c'est l'aspect charnel, c'est la chair. On est tiré de la terre, on retourne à la terre.
Le fameux Adama.
Voilà, exactement, Adam, le glébeux. Et puis, en plus de ça, c'est la poussière de la terre. C'est-à-dire, au moindre vent, cette poussière va partir. C'est-à-dire qu'il inscrit une parole qui est dans la fragilité humaine, mais en même temps qui est circonstanciée. Et bien ça, c'est un geste admirable. Voilà comment Jésus parlait.
Lorsqu'on parle de tout cela, Jésus conteur, Jésus qui quelque part utilise toute une série de signes ou de formules choc, vous-même en tant qu'aumônier ici à la Linière, vous avez l'impression que vous arrivez à reproduire ce type de communication-là? Ou bien c'est tellement extraordinaire qu'en fait c'est hors de votre portée?
Alors, je ne veux pas pécher d'orgueil et dire, mais bien sûr, sans problème, bien sûr que non. Il reste le maître. J'ai envie de dire, plus je contemple son attitude, plus je me replonge dans les évangiles, finalement, ça devient des mécanismes. Vous connaissez l'effet de la mode, plus on regarde une chose, plus ça va influencer même notre regard et notre manière d'être. Donc, c'est là tout l'effet de la contemplation. Plus je contemple le Christ, plus spontanément j'ai envie d'agir et d'être comme lui. Je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais ça reste pour moi mon modèle, mon idéal.
Thierry Lenoir était votre invité aujourd'hui, Serge Carrel, et on peut rappeler qu'il est aumônier.
Oui, aumônier à la clinique de la Linière à Aglan, dans le canton de Vaud, et que ce pasteur adventiste a publié un petit livre intitulé « Paroles de chair, les techniques de Jésus maître en communication » aux éditions Vie et Santé.
Une référence bibliographique que vous avez placée sur notre site internet, sergereligion.rsr.ch. Et demain, nous poursuivons notre parcours autour de cette formule « Mieux communiquer pour mieux vivre » avec un nouvel invité.
Oui, nous resterons dans le domaine de la théologie avec François-Xavier Amert, arbitre de football, guitariste, prêtre et aujourd'hui professeur de théologie pratique à Fribourg.
Merci Serge Carrel, merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Restez à l'écoute d'Espace 2, Entre les lignes vous attend juste après les informations autour de Le Corbusier. Bonne journée et à demain. est 11 heures sur...